Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Donc, je m'appelle Patrick Fontaine. Et à mon épouse, Lydia, nos trois enfants sont quelque part dans les bâtiments. Ensemble, nous sommes pasteurs à Poitiers. Donc Poitiers, est-ce que vous arrivez à citer Poitiers en France? Entre, vous prenez Paris, vous prenez Bordeaux et c'est à peu près, vous prenez l'axe et c'est à peu près au milieu. C'est à 1000 km d'ici pratiquement. Donc autant vous dire, on n'a pas fait le déplacement pour rien. Avec de la neige, sans de pneus neige. Mais bon, le Seigneur a été fidèle. Donc tout de suite, on a une église en charge. On est au centre-ouest de la France. Nous sommes fous de Jésus, on veut le servir à fond. Mais pour ma part, j'ai pas toujours été dans cet état-là. Je suis né dans une famille de païens pratiquants. Je suppose qu'il y en a aussi en Suisse. En tout cas, en France, il y en a un bon paquet. Donc je suis né dans une famille de païens pratiquants. Qu'est-ce que j'appelle une famille de païens pratiquants? Une famille dans laquelle on n'entend jamais parler de Dieu, si ce n'est pour dire des horreurs. Jamais fait de catéchisme, jamais fait de choses comme ça. Du côté de ma mère, c'était des sorcières, de mère en fille. Du côté de mon père, c'était des violents, le mélange des deux, né hors mariage, avec toute la bénédiction en plus. Vous l'avez devant vous, donc ça, tout démarrait mal. Et j'ai failli mourir dès la naissance. En fait, pendant 40 jours, j'étais entre la vie et la mort, mais ma mère n'avait pas le droit de me toucher. Ça a dû mettre des séquelles quelque part. Et après, j'ai passé mon enfance régulièrement dans les hôpitaux. J'avais une santé très fragile jusqu'en 5e. Ah oui, vous comptez pas pareil que chez nous. Jusqu'à l'âge de 11-12 ans. C'est 7e ici? Ouais. Jusqu'à l'âge de 11-12 ans, j'étais toujours le plus petit et le plus mec de la classe. Je m'étais pas développé normalement, donc j'étais rachitique. Et comme je viens de Normandie, en Normandie, si vous êtes un gars, que vous êtes petit, que vous êtes maigre, il faut mieux apprendre à courir vite. Parce qu'il y a toujours des grands, plus costauds, qui veulent faire le beau devant les filles. Donc, j'ai appris à courir vite. Et j'ai appris à accumuler beaucoup d'amertume, beaucoup de haine à l'intérieur. Et à l'âge de 15 ans, donc là, je fais... Mon enfance était régulièrement opération chirurgicale, hôpitaux, les traitements. J'étais vraiment pas en forme. Et à l'âge de 15 ans, j'avais 15 ans et demi, c'était en février 79... Là, ceux qui sont bons en mathématiques, ils commencent à faire le calcul. Quel âge ils pourraient avoir? J'ai eu 40 ans il n'y a pas longtemps. Voilà, rentrez dans le repos. Ne calculez plus. Et en février 79, je me suis retrouvé en Angleterre, à Londres. Et c'était mi-février 79. Et ça a été le premier tournant de ma vie. Mais ce n'était pas le bon tournant, celui-là. Mais ça a été le premier tournant de ma vie. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qui se passait en février 79 à Londres? Allez, question pour un champion. Tous à vos champignons. Hop. Non, c'était pas un match de foot. Non, c'était la pleine explosion du mouvement punk en Angleterre. Et en février 79, il y avait l'idole des punks, c'était Sid Vicious, le bassiste des Sex Pistols, qui venait de mourir d'une overdose d'héroïne. Et moi, je me suis retrouvé, j'avais jamais entendu parler des punks, il n'y a jamais de choses comme ça. Moi, j'étais le rat des champs. Et là, me voilà projeté en Angleterre, soi-disant pour perfectionner la langue. Et je me retrouve à Piccadilly Circus. Et d'un seul coup, tous les punks d'Angleterre s'étaient fixés rendez-vous pour un dernier hommage. Et c'était des centaines de punks qui se promenaient dans la rue, ça a été envahi d'un coup, il y avait toutes les couleurs, l'arc-en-ciel était réuni. Et moi je me suis retrouvé en plein milieu de tout ça, et j'ai reçu un appel sur ma vie. Mais c'était pas l'appel de Dieu, c'était l'appel du diable. Mais je peux en parler comme en termes chrétiens maintenant, parce que c'était vraiment comme un appel. Le diable m'a appelé à son service, et j'ai répondu oui. J'ai consacré ma vie à l'instant même, j'avais jamais entendu parler de ce qu'étaient les punks, et j'ai consacré ma vie pour la cause punk. Ça a vraiment été comme une conversion. Et là, je continue le langage chrétien. Vous allez comprendre la suite après. Mais en fait, non seulement j'ai été appelé, mais quand j'ai dit oui, que j'ai répondu à l'appel, j'ai reçu une onction. Mais ce n'était pas une onction de Dieu, c'était une onction démoniaque. Et ça m'est coulé dessus, et je suis devenu punk jusqu'au bout des ongles. Mais ce n'était pas une histoire de mode musical ou mode vestimentaire. D'un seul coup, une onction était venue sur moi. Je suis rentré en France comme missionnaire punk. J'ai fondé une église. En un an, on avait une église de 70 membres. Mais on n'appelait pas ça une église à l'époque, on appelait ça un gang. Mais c'est pour dire, il y avait vraiment une onction pour contaminer. Il s'était vraiment passé quelque chose. Donc je brûlais ma vie pour la cause punk. Donc j'avais 15 ans et demi. Et ça a très vite pris de l'ampleur en Normandie. J'étais un des premiers punks en Normandie. Et très vite, le mouvement punk s'est propagé dans toute la Normandie. Ça a été comme une flamme sur un terrain sec, quoi. Ça a pris, ça a complètement enflammé. Et là, ça a été l'escalade dans la violence, l'escalade dans la drogue, l'escalade dans l'occultisme. Et là, je passe très vite parce que ce n'est pas les années les plus intéressantes. En tout cas, ça a duré 5 ans où j'ai complètement brûlé ma vie. Et un jour, c'était en été, l'été 1983, ça c'était un jour béni, j'ai plus la date précise, mais c'était vraiment quelque chose de spécial pour moi. En étant en pleine guerre de gang, on voulait contrôler un quartier, puis il y avait un gang qui disputait le bout de gras, comme on dit chez nous. Et on voulait avoir le monopole sur le trafic de drogue, trafic d'armes et toutes ces choses. Et en pleine bagarre, je ne sais pas comment on était, peut-être 20 contre 20 ou 30 contre 30, on compte plus quoi. Hein. Et d'un seul coup, j'ai pas vu le coup arriver. Et paf, j'ai pris un coup de batte de baseball en pleine tête. Mais vraiment, le vrai coup. Je ne l'ai pas vu arriver, ça m'a fait décoller du sol. J'ai senti mes pieds décoller du sol. Une grosse douleur, une grande lumière blanche. Et d'un seul coup, tout s'est éteint. Quand je me suis réveillé, c'était encore en train de me donner le coup de pied. J'étais par terre, je me suis réveillé, j'ai pris les armes, j'ai tapé partout. Je suis rentré, et là, inutile de vous dire, j'avais mal à la tête. Je sais ce que ressent une balle de baseball pendant un match. C'est un sport de sadique. Non, j'avais très mal à la tête. Et je me suis regardé dans une glace et je me suis fait peur. Mais je me suis vraiment fait peur. Déjà, il n'y avait plus qu'un œil qui fonctionnait. L'autre, il n'y avait plus rien. Il y avait plein de choses devant, donc je ne voyais plus. Et quand je me suis vu dans la glace, je passe les détails, mais c'est comme si j'avais une grappe de raisin sur le côté. C'était tout violacé. Hein, là, je vous parle de 2-3 heures après le coup. Hein. C'était tout violacé, ça faisait comme une grappe de raisin, un peu Elephant Man pour ceux qui ont vu le film. C'était vraiment terrible. Et c'était vraiment pas beau à voir. Et là, j'ai pris toute la drogue que je pouvais encaisser et je n'arrivais pas à calmer la douleur. C'était une douleur terrible, des maux de tête terribles, indescriptibles. Et là, en bon normand, j'ai été voir les guérisseurs. Et j'étais voir le guérisseur le plus puissant qu'il y avait en Basse-Normandie. Je ne vous donnerai pas son adresse. Mais le plus puissant, celui-là, il a tellement un bon business qu'il a une maison avec des colonnes en marbre. C'est vraiment une grosse propriété, il forme les autres. C'est la star des guérisseurs en Basse-Normandie. Et j'ai été le voir, j'attendais patiemment mon tour. Et d'un seul coup, quand il est sorti de son bureau, il m'a vu dans la salle d'attente, il m'a regardé. Il est devenu tout rouge, il s'est mis à transpirer. Il m'a dit, je peux rien faire pour toi. Parce que les démons qui sont en toi sont plus forts que les miens. Au moins, c'était clair. Il disait avec qui il traitait. Donc, c'était très clair. Et là, j'avais plus trop d'espoir, quoi. Donc, je me suis tourné vers la médecine traditionnelle. Et j'ai été voir un médecin. Et puis, quand il m'a vu arriver, quand il a vu l'état de ma tête, donc l'œil, il y avait le peu qu'on arrivait à soulever pour regarder l'œil, il n'y avait plus de blanc, c'était tout rouge. Et puis, ça faisait comme une grappe de raisin. Et là, il m'a dit, faut directement aller à l'hôpital, faire les scanners, faire les radios et faire tous les examens, les dommages peuvent être gros. Et je me suis retrouvé à l'hôpital, donc à Caen, au CHU, au 13e étage, ceux qui y sont pour la tête. Et j'étais dans une chambre tranquille, il y avait 2 lits, puis là j'étais tout seul. Donc j'étais bien, j'étais dans mon lit, je pouvais écouter ma zik, je pouvais lire mes livres, je pouvais avoir les visites que je voulais, je commençais déjà à me faire des projets. Et voilà que le lendemain, je vous parle comme je pensais à l'époque. Ils m'ont amené un vieux, 40 ans. Rassurez-vous, c'est comme ça que je pensais à l'époque. Maintenant que je les ai, les 40 ans, je me dis, je suis de plus en plus fort, quoi. En fait, on n'est pas vieux, on n'est pas fini à 40, c'est juste le commencement. Mais à l'époque, je pensais on était fini à 40. Et là, on me met un vieux de 40 ans. Moi, j'avais 20 ans, je dis, oh, ça va pas, ça. Et en plus, il y avait tout qui nous séparait. Il était bien coiffé, il avait un beau pyjama en satin. C'était vraiment, il y avait tout. Moi, j'avais un Iroquois. J'avais pas de pyjama, tout nous séparait en fait. Tout nous séparait, on était de deux mondes complètement différents. Et là, le premier jour, il avait très mal à la tête, il pouvait pas parler. Mais voilà que le lendemain matin, au réveil, il se réveille, il me regarde, il me dit même pas bonjour. Hein. La première chose qu'il me dit, tu sais que Dieu existe, tu sais que Dieu t'aime, un jour tu serviras le Seigneur. Et là, je dis, aïe, je suis tombé sur un curé en plus. C'est terrible. En plus, je suis tombé sur un curé. Puis j'ai dit, écoute, laisse tomber tes histoires, ça ne m'intéresse pas. Et là, il a insisté, il a eu du zèle. Il a continué à me parler de ces histoires de bon Dieu. Il me parlait d'un Dieu qui aimait, d'un Dieu qui sauvait, un Dieu qui était souverain, qui était puissant, qui faisait des miracles. Et là, j'ai vécu mon premier miracle, justement. Je ne l'ai pas tapé. Et je vous garantis, c'est un miracle. Non, depuis que j'étais petit, j'avais toujours vu mes parents se disputer, et des fois même s'empoigner fort, que j'ai toujours détesté la dispute. Ça fait que quand quelqu'un n'était pas d'accord avec moi, je le tapais tout de suite. En fait, même quand j'étais punk, je ne mettais jamais en colère. Je tapais avant de me mettre en colère. Et là, il me prenait la tête. C'était vraiment terrible. C'était le chrétien qui persécutait le païen. Les rôles étaient inversés. Et je n'ai même pas pensé à le taper. Donc c'est là que je vous dis, c'est vraiment un miracle. Pour la première fois de ma vie, j'essayais de contrer quelqu'un avec ma bouche. Et ça, je vous dis, c'est un miracle. Et je cherchais l'argument qui tue, là, l'argument qui va le clouer et il ne va pas s'en relever. Puis en fait, j'ai rien inventé, hein, c'est les arguments qu'on me balance aujourd'hui. Hein, si Dieu existe, pourquoi les guerres? Si Dieu existe, pourquoi j'ai reçu ça? Moi, je l'avais mérité entre nous, mais bon. Je cherchais les arguments, j'avais l'impression d'avoir trouvé. Et quand je lui posais la question, la fière de moi, d'être vraiment intelligent, d'avoir trouvé la question qu'il ne pouvait pas répondre, quand il répondait, il enfonçait le couteau plus loin. Et il arrivait à me mettre le doute à force, hein. Il mettait le doute sur mes doutes. C'était terrible. Je dis, mais il a peut-être raison, en fait. Et je voulais à tout prix prouver qu'il est tort. Et j'ai tout fait pour le décourager. Et quand je vous dis tout, c'est vraiment tout. Une fois, il me parlait d'un Dieu d'amour. Et moi, juste pour lui prouver que j'étais irrécupérable, il y a un infirmier qui rentre dans la chambre pour amener mes pilules, là, pour que j'ai plus mal à la tête. Juste, il est rentré. Je me suis levé de mon lit. Et puis je l'ai tapé comme un sauvage jusqu'à ce que bien infirmier me vienne, me fasse une piqûre et m'attache sur le lit. Et juste pour lui prouver que j'étais irrécupérable. Et quand je me suis réveillé, j'avais encore les yeux fermés. Je dis, ah, je suis à l'hôpital. Je viens de faire du mal à un infirmier. Puis à côté de moi, il y a un casse-pied qui me parle de Jésus. Mais là, il va avoir peur maintenant. Il va trembler dans son pyjama. Il va me laisser tranquille. Et à peine j'ouvrais les yeux, il me dit, t'as beau jouer au dur, Dieu t'aime, Dieu te cherche. Un jour, tu serviras Dieu. C'était terrible pour moi, c'était terrible. Il me parlait de la Bible, je lui montrais mes livres d'occultisme, mes livres sur le nazisme ou des choses comme ça. C'était terrible, je voulais vraiment l'anéantir, juste par les propos. Et une fois, mes copains sont venus, c'était l'arc-en-ciel dans la chambre d'un coup, il y avait du rouge, du bleu, du jaune. On a démonté des armes sur mon lit, on faisait exprès de parler des coups durs qu'on allait faire quand j'allais sortir. Mais exprès, je parlais fort pour qu'il entende, pour qu'il tremble dans son pyjama, qu'il n'ose même pas tourner la tête. Et à peine mes copains sont sortis, il m'a dit, tu joues au dur, mais tu sais très bien au fond de toi que c'est pas la vie ça. Et Dieu te cherche, un jour tu serviras Dieu, Dieu t'aime tellement. Si tu connaissais l'amour de Dieu, Et un jour, donc après plusieurs journées de persévérance... Et je ne pouvais pas m'enfuir, en plus, c'est ça le pire. Après plusieurs journées de persévérance, voilà qui me dit, tu sais, j'ai 40 ans, ça fait 11 ans que je connais Jésus, je suis plus en forme que quand j'avais 20 ans. Et là, j'ai dû avoir l'ampoule qui s'allumait, poum, l'idée bête et méchante. J'ai dit, ok, tu dis que tu es en forme comme un gars de 20 ans, même plus, ça tombe bien, j'ai 20 ans. Alors je te propose une affaire. On est au 13e étage, il y a 20 étages, donc il reste 7 étages. On va les monter en courant, et arrivé en haut, on va faire une série de pompes. Et là, il me dit, d'accord, j'y vais mourir à 40 ans, lui. Il va pas faire le poids, là. Et il a couru dans l'escalier, tiré la langue, mais il a couru, puis arrivé en haut, il a quand même fait quelques pompes, quoi. Pas beaucoup, mais il en a fait. Et je me rappelle, on s'est assis près de la sortie d'urgence, là, qui donnait sur le toit. Et puis, je me rappelle, j'avais le dos contre la porte, je fais, ok, Dieu existe. Il a fait quelque chose pour toi, c'est bien. T'as vu mon état, t'as voulu me le dire, c'est bien, mais sache que pour moi ça peut pas marcher. Et je vais te donner plusieurs raisons. La première, tu dis que Dieu existe. Tu dis que Dieu est amour. Moi, je dis rien que ça, je ne peux pas croire. Comment ? Moi, je ne peux pas croire que Dieu est amour. Moi, il n'y a personne qui m'aime sur Terre. Même moi, je ne m'aime pas. Alors, comment quelqu'un là-haut peut dire qu'il m'aime ? Puis s'il m'aime, pourquoi il ne me l'a pas dit plus tôt ? Je dis non, moi, je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que quelqu'un m'aime, et encore moins Dieu. Après, tu me dis, Dieu est puissant. Puis là, moi aussi, ça bloque là, parce que je ne peux pas croire que Dieu soit puissant. Parce que s'il est amour et qu'il est puissant, pourquoi il ne m'a pas empêché de faire du mal à mes victimes ? Il ne les aimait pas ? Ou il n'était pas assez puissant pour m'arrêter ? Je dis non, tu vois, ça bloque, ça ne passe pas. Je dis, la troisième raison, tu me parles d'une conversion, tu me parles que tu as donné ta vie à Dieu. Je dis, écoute, pour moi, c'est trop tard, j'ai déjà choisi mon camp. J'ai encore la cicatrice sur le pouce, il y a 2 ans, j'avais fait un pacte avec le diable. J'ai signé avec mon sang pour avoir plus de puissance. J'ai déjà choisi mon camp. C'est trop tard pour moi. Puis la quatrième raison pour laquelle ça ne va pas marcher, c'est qu'en plus, me battre, guider un gang et prendre de la drogue, c'est les seules choses que je suis capable de faire. C'est les seules choses qui me donnent une reconnaissance par rapport aux autres. Quand j'étais petit, dans la cour, j'étais en primaire, mon rêve, c'était d'être un bandit. Et j'ai accompli mon rêve. Je voulais être chef de gang. J'entendais les grands qui s'étaient battus au bal le samedi soir. Et la seule ambition que j'avais tellement été petit, j'étais tout le temps faible, que je croyais que la force, c'était savoir se battre. Et j'avais idéalisé, c'était un idéal pour moi. Et là, j'avais atteint le but. Je dis, c'est la seule chose que je sais faire. Je dis, puis j'ai pas envie de m'arrêter. Et là, j'étais un gros menteur entre nous. Mais je voulais pas paraître. Et il m'a dit, écoute, on peut échanger nos adresses. Je dis, ouais, si tu veux m'écrire à la bonne année, mais ça ira pas plus loin. Pour moi, ça ne peut pas fonctionner, ton truc. Et je crois, le surlendemain, il est sorti de l'hôpital. Moi, je suis sorti la journée d'après. Et tout ce que j'avais entendu, là, à l'hôpital, eh ben, ça commence à faire son effet à l'intérieur. Et j'ai voulu changer de vie tout seul. Mais je voulais pas avoir à dire merci à Dieu. Trop orgueilleux. Donc j'ai essayé de changer tout seul. Donc j'ai essayé d'arrêter de me battre. Enfin, j'ai pas vraiment essayé. J'ai dit que j'avais essayé. J'arrivais pas. J'ai essayé d'arrêter de mentir. Je savais même plus à qui j'avais menti. Des fois, je mentais tellement que même moi, je savais plus c'était quoi la vérité. Donc, à la fin, je dis, je peux plus dire la vérité, sinon je vais être découvert, ça va être la honte. Donc, pris dans l'engrenage, j'ai essayé d'arrêter de voler. Puis il y avait toujours une dernière occasion, je dis, allez, je vais finir en beauté, quoi. Mais c'est la dernière fois, parole de voleur. Mais il faut que je finisse en beauté, quand même. J'arrivais pas à m'arrêter. J'ai essayé d'arrêter de me droguer. Et là, j'ai vraiment essayé. J'ai fait une première cure. Et en France, il y avait que 2 centres qui proposaient des cures comme ça. C'est des cures où... Non, ça c'est la deuxième cure que j'ai fait comme ça. Première cure traditionnelle. Vous êtes un drogué légal, on vous transforme en drogué légal. On remplace la drogue par de la drogue de substitution et par des médicaments. Là, à la moitié de la cure, j'ai quitté l'établissement, je tenais plus, ça m'intéressait pas. Après, j'ai dit non, enfin, à tout prix que je m'arrête, faut que je change de vie. J'ai essayé la méthode forte. Donc, il n'y avait que 2 centres en France qui les proposaient. C'est, on vous laisse passer les crises de manque sans drogue de substitution. Juste, il y a le contrôle médical pour pas que ça aille trop loin. Donc, en l'occurrence, pour moi, ça s'est passé comme ça. Au moment le pire, on m'a attaché sur un lit, on a laissé passer les crises de manque comme ça. Et là, ça a été terrible. J'avais l'impression qu'on me sciait les jambes. J'avais l'impression que j'avais une barre qui était enfoncée dans mon ventre et qui sortait de mon dos. C'était terrible, les sensations. Puis ça a duré une journée où c'était la pointe, une demi-journée où c'était pas confortable. Et après, ça a été en diminuant. Et là, mon corps n'avait plus besoin de drogue. Je commençais même à reprendre du poids. J'ai quitté l'établissement complètement sevré de la drogue. Il fallait que j'attende 15 jours pour une post-cure, pour me réinsérer dans la société. Et au bout de 3-4 jours, j'ai repris les doses que je prenais avant la cure. C'est parce que mon corps en avait plus besoin, mais là, j'en avais besoin. Et les raisons pour lesquelles je m'étais drogué, elles étaient toujours là. Donc c'était pas une histoire de crise de manque. J'étais complètement pris et là, j'aurais pu y passer, hein. Prendre les doses directes alors que j'étais sevré. Et je pense que Dieu m'a gardé même dans ces prises de drogue. Et entre-temps, le gang a commencé à avoir des affaires très sérieuses. On a commencé à être serré de près par la justice. Et mon meilleur copain, celui avec qui on se mettait dos à dos dans les bagarres, on était comme frères de sang, il s'est fait une piqûre. Il y avait 1/3 d'héroïne et 2/3 de strychnine dedans. La morora, en fait. Chez les drogués, des fois, on rajoute un peu de morora pour accélérer et pour amplifier l'effet. Mais jamais 1/3, 2/3. Là, c'était un suicide, en fait. Il a même pas fini l'injection, hein, il est parti. Et là, je me suis dit, c'est lui qui a raison et je vais le suivre. Et je me suis préparé un suicide réussi où là, j'étais sûr de ne pas me louper. Et juste avant de passer à l'acte, je me suis souvenu, ou plutôt maintenant je peux dire, le Saint-Esprit m'a rappelé les paroles que j'avais entendues à l'hôpital. Que je pouvais vivre une vie comme si j'étais né dans une famille normale. Que je pouvais recommencer ma vie comme si je m'étais jamais drogué, que j'avais jamais fait de pacte avec le diable. Comme si j'avais jamais connu les gangs, comme si j'avais jamais connu la zone. Puis je me suis dit, je perds rien à essayer en fait. J'essaye, si ça marche, je suis gagnant. Si ça marche pas, je me tue plus tard. Mais en fait, je peux toujours essayer, quoi. Ça coûte rien. Et là, j'ai retrouvé le numéro de téléphone et 3 mois s'étaient passés. Hein. Donc le gars, il n'avait eu aucun signe d'encouragement. Hein. 3 mois s'étaient passés. Je lui téléphone, je fais « Allô Daniel ?» Ici, c'est Patrick. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. On s'est vu à l'hôpital. Et vous savez ce qu'il me répond, lui? Il me dit « Et comment on se rappelle de toi? On prie pour toi tous les jours. » Là, ça m'a fait un premier choc. Je dis « Ils sont fous, ces chrétiens-là. » Je dis « Écoute, tu m'as parlé de Dieu, ça ne m'intéressait pas, puis là, j'ai envie d'en savoir plus. » Et là, il me dit « Écoute, tu es toujours sur Falaise ?» C'était la ville où j'étais. Je fais « Ouais. » Il me dit « Va sur le centre-ville, d'ici une demi-heure, je suis là, je viens te chercher. Ça tombe bien, ce soir, il y a une réunion. » Et il raccroche. Il m'a pas laissé le temps de dire non. Et écoutez bien, ça, c'est une technique d'évangélisation. Laissez pas le temps de dire non. Et là, je dis, il vient de Caen, Falaise, ça fait 35 km aller, 70 aller-retour. Je ne vais pas le laisser venir pour rien, donc je vais y aller à son église. Bon. C'est pas ça que je voulais, mais bon. Et là, il vient me chercher, il m'emmène. Et puis là, on arrive. Et puis, je regarde, il me dit, ayant arrivé, je dis, elle est où l'église? Elle me dit, c'est ça. J'arrête, tu rigoles, c'est pas une église, c'est un ancien cinéma. J'y allais quand j'étais gamin. Parce que pour moi, le mot église, j'avais tellement peu de culture. Le mot église, c'était un vieux bâtiment, des cloches en dessus, des cloches en dessous, un curé, une vieille dame à l'orgue, et debout assis. Pour moi, c'était ça le mot église. Et là, il m'emmène dans un bâtiment, c'est un ancien cinéma. Je dis, oh, il y a un truc là. Après, je rentre, mais il y avait plein de monde et plein de jeunes. Je dis, qu'est-ce qu'ils viennent perdre leur temps ici, les jeunes? C'est faux de vue. Des jeunes qui vont à l'église, c'est complètement fou ça. Et puis après, je dis, il est où votre curé? Il me dit, non, on n'a pas de curé, nous, ici, c'est un pasteur. Je dis, vous la faites comme la petite maison dans la prairie. Bon, il n'avait pas tellement le sens de l'humour. Puis après, je regarde de plus près, il y avait plein de filles. Je dis, c'est bon, je reste. Juste pour les filles, en fait. Et là, les chrétiens ont commencé à chanter. J'avais honte pour eux. La seule raison que je suis resté, c'était l'orgueil. Je dis, je recule pas dans la rue, je vais pas reculer devant des grenouilles de bénitier. Mais j'avais honte pour eux. Ils chantent. Hey, j'y étais, la première réunion, c'était un soir. Écoutez bien. Ils ont chanté un chant qui disait « Fraîche rosée, descend sur nous ». Un soir. Ils sont encore plus malades que nous. Ils chantaient des chants. Je dis, comment on peut chanter des chants aussi naïfs et respirer encore? C'est pas possible. C'était tellement fou. Après, le pasteur a parlé. J'ai rien compris à ce qu'il a dit. Pourtant, c'était un super pasteur avec des super prédications. Mais moi, j'étais tellement formaté dans ma tête. J'ai rien compris. Il parlait de quelqu'un qui s'appelait Nicodème. Il racontait sa vie. Moi, je savais même pas lequel c'était dans la salle, Nicodème. J'ai dit, il est gonflé quand même. Comment il en parle tout le temps? Et là, à peine c'était fini, je suis parti. Je dis, je ne mettrai plus les pieds ici, c'est tous des fous. Et puis, je rentrais à la maison, puis je disais, il y avait une fille dans le fond, il faut que j'y retourne quand même, pour que j'en ai le cœur net. Et en fait, j'ai continué à aller à l'église grâce aux filles. Donc, c'est pour ça que je peux vous dire, je suis pour le ministère féminin. Elles ont une utilité quand même dans l'église. Et un jour, ça c'était super, c'était début mi-octobre, j'ai un vague souvenir. Il y a un docker qui venait du Havre. Un docker, vous savez ce que c'est un docker? Les ouvriers qui déchargent les bateaux. Et là, il donne son témoignage, et là, ça m'a percuté. Il dit, voilà, avant j'étais alcoolique, j'étais violent, tellement violent que je frappais ma femme avec des chaînes, des fois elle couchait dehors, et je me suis retrouvé en prison. Il donnait son témoignage, et il était haut de ça, et large de ça. Et puis il dit, et je me suis retrouvé en prison, et là j'ai rencontré Jésus. Et maintenant, j'aime Jésus, j'aime ma femme et je ne bois plus. Et il avait quelque chose dans les yeux, c'est ce témoignage-là qui m'a percuté. Ce n'était pas les histoires de Nicodème, je ne comprenais rien du tout. Mais là, un témoignage de vie, ça m'avait percuté, mais vraiment percuté. Et là, je donne un coup de coude à mon voisin, je dis, toi, je te l'avais dit. Dieu, là, il a fait quelque chose pour lui, ça se voit. Je dis, moi, ça fait plusieurs semaines que je viens. Hier, je me suis battu. Ce matin, j'ai encore pris de la drogue. Et la semaine prochaine, je passe au tribunal. Toi, Dieu fait rien pour moi. Je suis trop pourri. Je t'avais dit que c'était trop tard pour moi. Et là, il m'a donné une réponse. Celle-là, vraiment, c'était inspiré par Dieu. Il m'a dit, écoute, c'est pas le fait de venir à l'église qui va changer ta vie. Alors, je comprenais pas trop. Il me dit, tu peux venir à l'église, tu peux même lire ta Bible, c'est pas ça qui va changer ta vie. Il dit, tu peux t'asseoir toujours à la même place, venir à toutes les réunions, être fidèle, c'est pas ça qui va changer ta vie. Je dis, bah alors ça sert à rien que je vienne, je savais bien. Il dit, non, non, c'est bien que tu viennes, mais c'est pas ça qui va changer ta vie. Il dit, tu peux même chanter tous les cantiques. Moi, ça risquait pas que je les chante, leur truc. Mais... Il dit, tu peux apprendre les cantiques par cœur, c'est pas ça qui va changer ta vie. Il dit, tu pourrais même te faire baptiser, c'est pas ça qui changerait ta vie. Il dit, tu pourrais devenir membre de l'église, c'est pas ça qui va changer ta vie. Je comprenais plus rien à ce qu'il me disait. Alors je dis, bah, c'est quoi qui change une vie? Il me dit, ce qui change une vie, c'est de rencontrer Jésus et de lui donner ta vie. Et là, il m'a fait exploser la tête. Là. Je dis, rencontrer Jésus, tu l'as rencontré toi? Il me dit, oui. Je dis, quelle couleur ils sont ses yeux d'abord? Et là, il me dit, écoute, quand Jésus vient dans ta vie, tu le vois pas avec tes yeux, tu le touches pas avec tes mains, mais il est tellement réel que ça te suffit. Et sa réponse, elle avait du sens en fait. Hein. Ça m'a percuté. Je dis, comment t'as fait pour le rencontrer? Et là, j'ai eu l'impression de tomber dans un guet-apens chrétien. D'un seul coup, comme un cow-boy, il a sorti des traités de ses poches. Hop. Le plan du salut avec Billy Graham, là, puis un autre traité, il dit, c'est écrit là, tu fais comme ça. Il dit, tu veux qu'on prie ensemble? Je dis, hop. Moi, le gros dur, j'ai découvert que j'étais timide. Je dis, non, pas tout de suite, laisse-moi réfléchir avant. Je dis, donne-moi tes papiers, je vais les lire. Et le soir, quand je suis rentré, j'ai attendu que tu étais tout seul. Et je me rappelle, j'ai prié pour la première fois de ma vie. Je me suis mis à genoux. Avant d'être chrétien, j'étais déjà religieux, vous imaginez? Je pensais qu'il n'y avait qu'à genoux qu'on pouvait prier. Donc je me suis mis à genoux et j'avais les papiers d'ouvert, tous les traités là, et je me suis mis à crier à Dieu. Je fais « Dieu !» Je criais parce que je pensais qu'il était très loin. « Dieu ! Je sais même pas si tu existes. Eux, ils disent que tu existes, moi j'en sais rien. » Puis je disais, il paraît que t'as envoyé ton fils Jésus. Et puis pendant qu'il était sur terre, il chassait les démons. J'ai besoin que les démons ils partent de ma vie. Il guérissait les malades. J'ai besoin d'être guéri. Il changeait les vies. J'ai besoin que ma vie échange. Il paraît que si je meurs tout de suite, je vais en enfer. Et puis je sais que j'y vais en première classe. Si c'est vrai que Jésus il a donné sa vie pour moi, si tu me sors de là, et bien aussi vrai qu'il a donné sa vie pour moi, je te donne ma vie. Et on la trouve pas dans les psaumes, cette prière-là. Mais elle a été entendue au ciel. C'était début novembre 1983. J'ai su que j'avais été entendu là-haut. La paix de Dieu est descendue dans mon cœur. La paix que j'avais cherchée depuis que j'étais enfant, je ne l'avais jamais trouvée. Je l'avais cherchée dans la famille, impossible. Après, je l'avais cherchée dans les filles. Voilà, c'est surtout pas là qu'il fallait chercher. Chercher dans l'alcool, je ne supportais pas. La drogue, c'était pas la paix, c'était un état second. Chercher dans les sports de combat, dans le yoga, non, c'était un contrôle mental, mais c'était pas la paix. Et là, sans que je demande quoi que ce soit, je ne savais même pas que ça existait, la paix de Dieu envahissait mon cœur. Je me suis endormi, j'ai dormi comme un bébé, pas de cauchemar. Ça faisait des années, toutes les nuits je faisais des cauchemars. Je voyais des démons, ou alors des gars qu'on avait laissés sur le carreau qui venaient m'accuser. Ou... C'était terrible, parce que même quand vous êtes dans le monde, votre conscience est pour prendre. Il ne faut pas croire que tout est anesthésié. Hein. C'est dur de dormir quand on fait des horreurs. Très dur, on est obligé de prendre de la drogue pour anesthésier. Et... Je me suis endormi, j'ai dormi comme un bébé. Je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais heureux. Wow. Et le midi, je me suis rendu compte que de toute la matinée, je n'avais pas pensé à la drogue. J'ai même pas prié pour ça, j'avais jamais entendu de témoignage. Dans ma petite tête de chrétien, je m'étais dit, maintenant que je suis chrétien, je vais faire une autre cure, puis là ça va marcher parce que Dieu va m'aider. Je savais même pas qu'il pouvait délivrer la drogue, j'y ai même pas demandé. Et comme cadeau de bienvenue dans le royaume de Dieu, Jésus m'a complètement délivré de la drogue. Mais complètement. C'était début novembre 1983, et depuis, j'ai jamais fait de crise de manque. Amen. Il n'est pas ce soir que ça va me prendre. De la neige, ouais. Non, mais écoutez, une semaine plus tard, on m'en a donné de la bonne, de la gratuite. Quand vous en voulez, il faut la payer, elle est de qualité moyenne. Et là, le tentateur est venu. On m'en a donné de la bonne et de la gratuite. Vous voulez que je vous dise une chose? Je ne vais pas jouer au spirituel. Je n'ai même pas eu besoin de lutter contre la tentation. Je n'ai même pas été tenté. Parce que Jésus m'avait non seulement délivré, mais lavé. C'était déraciné du cœur. En fait, on est tenté que par ce qui est déjà amorcé au niveau convoitise dans notre cœur. Moi, ça avait été déraciné. Ça ne m'a même pas tenté. Mais ce n'est même pas ma foi. J'y croyais même pas. C'était le cadeau de bienvenue dans le royaume de Dieu. Et ça, c'était merveilleux. Et là, j'ai voulu aller à l'église, et puis je voulais que tout le monde voit que j'étais chrétien, et puis j'avais une Bible un peu plus grosse. Et puis je disais, je suis comme vous maintenant! Mais personne ne voulait le croire. Mais normal, j'étais encore habillé en punk. Le collier de chien, les fringues à nourrice, et le perfecto avec les clous, les bottes allemandes, le flingue dans le dos. C'était pas pour prendre l'offrande, hein, mais... Mais moi, je venais de ce milieu-là. Dieu ne m'avait pas encore parlé sur ma panoplie. c'est pas par là qu'il a commencé. Donc, ils avaient du mal à croire que j'étais chrétien. Pourtant, si j'étais mort ce jour-là, j'étais complètement sauvé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais il y a des chrétiens, ils auraient voulu que, en l'espace d'une journée, j'en apprenne autant qu'en 20 ans. Quoi. Et il ne faut pas demander du fruit à un arbre en fleurs. S'il est en fleurs, c'est qu'il va y avoir du fruit. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, il n'a pas commencé par ça. Donc, pendant quelques temps, ça a été dur pour les gens d'admettre que j'étais réellement converti. Et là, je vais faire un bond dans le temps. 7 mois plus tard, j'ai reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'était merveilleux. Ça, c'était merveilleux. Je me rappelle, j'ai un rendez-vous avec le pasteur. Puis j'ai l'impression que je plafonne maintenant. Il me manque quelque chose. C'est pas comme au début. Puis là, il ferme les yeux, puis il me dit, il y a du refus de pardon dans ta vie. Refus de pardon. Il me dit, écoute, on va faire quelque chose. On va prier, tu vas fermer les yeux, et puis toutes les personnes qui vont te remonter, ça veut dire que tu as besoin de les pardonner, et tu dis, au nom de Jésus, je le pardonne pour ce qu'il a fait. Tu cites les gens par leur nom, tu pardonnes au nom de Jésus. Et je pensais que ça allait être une formalité. À peine il a commencé à prier, oh, c'était la foule qui montait. Il y avait une foule là-dedans. Et ça a duré. Au début, c'était des gens, petit à petit, ça se rapprochait, c'était au niveau de la famille. Au début, c'était des gens lointains, mais petit à petit, ça se rapprochait. C'était vraiment des... C'était de plus en plus dur. Et en plein milieu, tu disais, au nom de Jésus, je pardonne un tel pour ce qu'il a fait. Au nom de Jésus, je le pardonne, Seigneur, qu'il ne prenne pas en conséquence de ce qu'il a fait. Et pendant que j'étais en train de pardonner, d'un seul coup, je n'ai pas su ce qui se passait. La présence de Dieu est descendue sur ma vie. Mais vraiment d'une manière forte, et ma langue a commencé à fourcher, et je me suis mis à parler en langue. Mais je ne savais pas, moi. Du coup, j'allais m'arrêter, le pasteur, il fait « Alléluia, gloire à Dieu, continue !» Je dis « Bon, ça doit être bon. » Mais je ne savais même pas que ça existait, quoi. C'était... Et là, c'était merveilleux. Et ce jour-là, je me rappellerai toute ma vie, c'était le 31 juillet 1984. Vous savez pourquoi je suis obligé de m'en rappeler? Il s'est passé 3 choses ce jour-là. 3 choses. La première... J'avais une jambe plus courte, je ne savais même pas, mais c'est pour ça que j'avais tout le temps mal au dos. Puis on a contrôlé, j'ai une jambe courte, le pasteur a prié, ma jambe a rallongé. Deuxième chose, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Troisième chose qui s'est passée ce jour-là, j'ai rencontré celle qui allait devenir ma femme. Alléluia! J'étais dans une église de maison, c'est elle qui m'a ouvert la porte, je l'ai vue. Plus tard, ils se marient avec des beaux enfants, et c'est pas un conte de fées, hein, c'est l'histoire, vrai. Donc je suis obligé de me rappeler d'une date comme ça. C'était le 31 juillet 1984. Et là, très vite à l'intérieur, je savais que j'étais appelé par Dieu. Mais il faut des fois du temps entre le moment où on est appelé et le moment où on est prêt à le servir. C'est pas parce que tu es appelé que tu es apte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il y a tout un temps de préparation. Puis là, Dieu a dû convertir ma façon de penser, ma façon de parler, ma façon de m'habiller, toutes les façons, quoi. Puis il continue, je suis toujours en chantier. Je ne suis pas un produit fini encore. Et très vite, on est parti dans l'Est de la France, on a commencé à servir Dieu au sein d'un groupe de jeunes, une équipe d'évangélisation, avec Vincent Fernandez, je pense qu'il y en a plusieurs qui connaissent. C'est le seul qui m'a donné ma chance pour servir Dieu, alors que les autres voyaient que l'ancien punk ou voyaient qu'un bandit. Lui, il a vu le futur serviteur de Dieu. Et il a osé prendre des risques, il a osé me couvrir. Pendant, je peux vous dire, hein, au tout début, c'était du brut de décoffrage. Hein. Des fois, j'étais assis au premier rang, je recevais une parole pour quelqu'un, je me levais. Parole pour toi là-bas. Bon. Et Vincent, il passait derrière. Il ramassait le morceau. C'était terrible. Mais c'est le premier qui m'a donné ma chance. Et pour moi, ça a vraiment été une connexion divine d'être avec Vincent. Donc c'est pour ça, vous qui le connaissez, je veux le dire, c'est vraiment un homme de Dieu qui a su être à l'écoute et qui est encore. Hein. Je ne parle pas au passé. Hein. On ne fait pas son épitaphe, hein, il a encore des bonnes années à vivre. Donc voilà pour la présentation. Maintenant, vous comprenez pourquoi je suis fou. Mais au moins, je sais de qui je suis fou de Dieu. Un petit détail aussi, c'est que l'église dans laquelle je me suis converti, le pasteur s'appelle toujours, il n'est pas décédé, c'était Robert Boudéen. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler de lui. Au niveau de la France, ça a été le ministère de guérison le plus puissant depuis Martin de Tours. Donc Martin de Tours, c'est 4e siècle. Ah non, j'ai fait une enquête, hein. J'ai fait une enquête sur les ministères de puissance et de guérison en France. Depuis Martin de Tours, il n'y en a pas eu un plus puissant que lui. Donc, et j'ai eu la chance de me convertir dans cette église, et toutes les semaines, on voyait des guérisons et des miracles. Mais vraiment, de manière forte. Hein, moi, j'ai loupé de 15 jours, je me suis converti 15 jours trop tard. 15 jours plus tôt, il y avait un borgne qui perdait la vue de son œil valide, et quand il est sorti de l'eau, son œil qui était malade, il voyait bien, et dans l'orbite vide, il y avait un nouvel œil. Ça, devant 250 témoins. Il y avait des miracles toutes les semaines, toutes. On voyait des guérisons. Dernier dimanche du mois, c'était le jeûne. Jeûne et onction d'huile à tous les malades. Et je me rappelle, les malades se levaient, ça faisait tout le tour de l'église, ça tournait dans le sens des aiguilles du monde. Ils faisaient onction d'huile systématique. Puis ils disaient, prions frère, prions. Puis tout le monde avait les yeux fermés. Puis moi, je faisais semblant, je faisais. Je voulais tout voir, je voulais pas en louper une. Et j'ai vu des bossus se redresser, des membres tordus se redresser. Vraiment, il y avait des... Et le fait de m'être converti, alors que j'avais aucune culture chrétienne, eh ben, je suis un peu comme Obélix, quoi. Je suis tombé dans la marmite. Parce que j'ai jamais été victime d'un enseignement d'incrédulité concernant la guérison. C'est pas en Suisse, oh non, j'imagine quand même, ça doit être pareil qu'en France. Quand les hommes perdent l'expérience, ils s'inventent des doctrines qui correspondent à leur expérience, comme ça on les remet pas en cause. Hein? Et en fait, il y a tellement d'enseignements d'incrédulité qui empêche les gens de rentrer dans leur héritage, que, eh ben, il y en a pour certains, c'est dur, ça a creusé comme des ornières. Ils ont du mal à croire en un Dieu d'amour, un Dieu qui est capable de les guérir comme ça. Moi, on m'a dit Dieu sauve, j'ai été sauvé, on me dit Dieu délivre, j'ai été délivré de la drogue, on me dit Dieu guérit, j'ai vu plein de guérisons, je suis obligé de croire, quoi. Et j'ai eu la preuve par mille que Dieu n'avait pas changé, que c'était le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison. Donc, je reconnais que là-dessus, Dieu m'a fait grâce et que j'ai un sérieux avantage. Jamais été victime d'un enseignement d'incrédulité. Oh ! Maintenant, si vous avez été victime, repentez-vous. Il y en a qui vont dire, oh, se repentir d'être victime ? Ouais, se repentir, ça signifie changer de mentalité. Le fait d'avoir été exposé à des enseignements d'incrédulité, ça a formé des forteresses, ça a formé des raisonnements. Et sur ces raisonnements, on a besoin de s'en repentir. Amen. Sinon, on peut vivre toute une vie chrétienne sans rentrer dans son héritage. Et c'est quand même malheureux. Hein. Et Jésus, quand il est mort sur la croix, c'était pas pour les vies misérables qu'on mène. Hein. Il a payé pour beaucoup plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il a payé pour beaucoup plus. Donc, le fait de m'être converti dans cette église, c'est sûr que ça a mis une marque au niveau de l'appel de Dieu sur ma vie. Et j'en parlerai dans une autre soirée, mais l'onction de guérison a commencé à se développer, j'ai commencé à creuser au niveau de la Bible, le Seigneur a commencé à donner des clés, j'ai commencé à faire des expériences, et je peux vous dire aujourd'hui, Dieu n'a pas changé, il est celui qui guérit. Amen. À l'heure où je vous parle, c'est des dizaines de cancers, dont plusieurs en stade terminal, qu'on a vu complètement guéris. J'ai 2-4 sida, dont un en stade terminal, complètement guéri, des paralytiques qui se lèvent, des organes qui n'étaient plus là, qui repoussent, des malformations de naissance qui sont corrigées. Et je ne vous parle pas de tous ces miracles-là, ils n'ont pas seulement lieu en Afrique ou en Argentine. Je vous parle aussi des choses qui se passent en Europe, qui se passent en France, au pays des rationnels. Amen. Parce que Dieu n'a pas changé. Mais il cherche juste quelqu'un qui le prend au mot. Amen. Et qui ne s'invente pas des doctrines qui vont atténuer la puissance de Dieu. Hein, déjà sur la croix, on a mis Jésus tout nu. On lui a retiré son vêtement. Et maintenant, les chrétiens, ils font pire. Ils lui retirent son revêtement de puissance. Une deuxième fois, ils déshabillent Jésus. On ne croit pas. Non, c'est pas possible. On n'a pas besoin de ça pour croire. Est-ce que vous me suivez dans ce que je veux dire? Jésus n'a pas changé. Et je n'ai pas fait 1000 kilomètres pour vous parler de Nicodème. Non, je vais vous parler de Jésus. Et je vais donner de quoi un petit peu méditer pour cette nuit, puis pour le restant de ces jours-ci. Vous savez, j'ai eu un mot en venant ici. Puis je pense que je vais le sortir à toutes les réunions. On a besoin de se rendre vulnérable au Saint-Esprit. Il y a des fois, on veut l'action de l'Esprit, mais surtout pas dans tel domaine ou tel domaine. On a besoin de se rendre vulnérable à l'action de l'Esprit. Moi, je crois une chose, c'est si, durant ces jours qu'on va passer ensemble, il y en a qui ont le courage de dire, Saint-Esprit, je vais me rendre vulnérable à toi. Je suis prêt à ce que tu pointes ce que toi tu veux pointer dans ma vie. Je suis prêt à ce que tu mettes en lumière ce que toi tu veux mettre en lumière dans ma vie. Je suis convaincu, les gens qui vont faire ce style de prière, qui vont avoir cette disposition de cœur, ils ne repartiront pas comme ils sont venus. Ring-a-ding. On va quand même prendre un texte biblique, ça fera plus chrétien. Dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 4, c'est le texte sur la Samaritaine. Quand j'étais petit, il y avait une pub qui passait, on trouve tout à la Samaritaine. Ben, j'ai découvert que c'est vrai. Bon, on va pas le relire, vous le connaissez tous, l'histoire de la Samaritaine. Il était une fois, c'est Jésus qui devait passer par la Samarie. C'est intéressant, c'est écrit, il devait passer. Pourquoi il devait passer? À cause de la Samaritaine. Il devait passer. Et là, il arrive en plein midi, Jésus est fatigué. Oh, Jésus fatigué. C'est pas croyable ça. Mais si, la Bible dit qu'il est parfaitement homme, il a le droit d'être fatigué quand même. C'est pas Superman, il a pas mis son slip par-dessus son pantalon avec une cape. Il est parfaitement homme. Amen. Et là, il s'assoit sur le bord du puits. Et il envoie ses disciples faire les commissions, faire les courses au magasin d'à côté. Et là, pendant ce temps-là, il y a une femme qui arrive en plein midi. Et dans un pays chaud, il faut être fou pour sortir le plein midi. Vous êtes d'accord? Ou alors, c'est qu'on veut rencontrer personne. Je pense que c'est ça. Et elle vient puiser de l'eau. Puis Jésus, il dit, j'ai soif. Et la femme, il dit, oh, tu t'es vu, toi, t'es un juif, moi, je suis une samaritaine, on n'est pas de la même cité, là. T'es pas censé me parler. On n'est pas censé avoir de relation tous les deux. Et Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui demande à boire, tu le n'aurais demandé toi-même. Et l'eau qu'il t'aurait donnée, ça aurait été une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et la femme lui dit, donne-moi de cette eau que je n'ai plus puiser ici. Vous vous rappelez, hein, c'est exactement ça. Puis Jésus dit, va chercher ton mari d'abord. Et la question qui tue, là, c'est... La femme elle dit, j'ai pas de mari. Et Jésus dit, tu fais bien de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant, c'est pas ton mari. Et là, la femme, elle dit, waouh, je vois que tu es un prophète en plus. Elle dit, nos pères disent que c'est sur la montagne qu'il faut adorer. Et puis les juifs, ils disent que c'est à Jérusalem. C'est quoi la vérité? Vous imaginez, la femme est devant la vie, elle est devant le prophète qui vient de la part de Dieu. Plutôt que de faire une expérience, plutôt, elle en vient à se poser des questions de théologie. Où c'est qu'il faut adorer? Sur la montagne ou sur Jérusalem? Jésus dit, c'est ni l'un ni l'autre, t'as tout faux. C'est en esprit et en vérité, d'une manière réelle et d'une manière spirituelle. Pas pour de faux. Amen. C'est pour de vrai, c'est pas pour de faux. La femme, elle dit, Et là, la femme, les disciples arrivent, la femme, elle repart à Sichar, elle en oublie sa cruche. Ça aussi, c'est des détails qui sont intéressants, hein. Elle oublie ses propres affaires et elle va annoncer la bonne nouvelle à Sichar. Elle dit, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit tout ce que j'ai fait. Puis elle devait en avoir fait entre nous.
Il dit, ne serait-il pas le Christ? Et là, du coup, tous les Samaritains, ils sortent. Et ils vont voir, et qui est ce prophète, qui est ce Jésus? Et il y a une parole qui est intéressante. C'est dans Jean, au chapitre 4, à partir du verset 39. Regardez bien ce qu'il y a écrit. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et c'est sur ces versets que ce soir je voudrais apporter quelque chose de la parole de Dieu. C'est qu'au départ, les Samaritains ont cru en Jésus à cause du témoignage de la femme. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais à la fin, il y en a qui ont cru, pas à cause du témoignage de la femme, mais parce que eux-mêmes étaient venus, eux-mêmes avaient vu, eux-mêmes avaient vécu, et eux-mêmes connaissaient que Jésus était le sauveur du monde. Et ça fait une très grosse différence. Une très grosse différence. Et là, je te pose juste une question. Ce que tu connais de Dieu, comment le connais-tu? Est-ce que tu le connais à cause du témoignage de quelqu'un d'autre? À cause des prédications, à cause des études bibliques, à cause de livres que tu as lus sur lui? Ou est-ce que toi-même, tu es venu dans sa présence et tu l'as rencontré, tu as eu une rencontre vivante avec lui? Tu ne vois pas que c'est une bonne question, ça? Et on pourrait en poser plein des questions comme ça. Parce que dans les Samaritains, au départ, il y a ceux qui sont venus parce qu'ils avaient entendu les témoignages. Le témoignage de quelqu'un d'autre, la prédication de quelqu'un d'autre. Mais après, plusieurs ont cru parce que eux-mêmes avaient vécu quelque chose et eux-mêmes avaient rencontré Jésus. Donc je te repose juste la même question. Ce que tu connais sur Jésus, comment le connais-tu? Est-ce que tu le sais à cause de toutes les descriptions qu'on t'a fait au travers des prédications ou parce que toi-même, tu as vécu quelque chose avec lui? Tu sais quoi? Ça va faire une énorme différence dans ta vie. Une énorme différence. Ce que tu connais du Père, comment le connais-tu? Est-ce que tu connais ça parce que tu as lu des livres sur la paternité de Dieu? Parce que tu as vu que Jésus, il a dit quand il faut prier, il faut dire notre Père? Et tu as entendu le témoignage des autres? Ou parce que toi-même, tu as reçu cet esprit qui te fait crier « Abba Père » et tu as été positionné dans ta position de fils? Tu as eu une révélation de Dieu en tant que Père. Pourquoi tu l'appelles Père, en fait? Parce que c'est chrétien de l'appeler Père? Ou parce que tu as reçu son esprit qui t'a positionné en tant que fils? Et en fait, c'est toujours les mêmes questions qu'on a dans l'Église. Le pourquoi on croit. Amen, tu ne pas que c'est important? Et on pourrait en donner plein. Ce que tu connais du Saint-Esprit, comment sais-tu? Parce qu'un jour, tu as eu un livre de béni, bonjour Saint-Esprit, tu te dis, je vais faire pareil? Ou parce que toi-même, tu l'as rencontré, et selon 2 Corinthiens 13-13, tu as une communion avec le Saint-Esprit? Pas juste une croyance, une communion avec le Saint-Esprit. Ou régulièrement, tu lui parles, et tu lui laisses te parler. Où tu vis quelque chose de réel avec lui. Et on pourrait continuer, la liste est longue. Ce que tu connais de la guérison divine, du fait que Dieu guérit, comment le sais-tu? Parce que tu as entendu qu'il y avait des gens qui prêchaient la guérison, tu as lu des excellents livres, même ceux de Patrick Fontaine. Ou parce que tu as voulu en avoir le cœur net et Jésus s'est révélé à toi comme celui qui guérit. Ça fait une énorme différence. Une énorme différence. Pourquoi on croit? Quelle est la raison de notre position spirituelle actuelle? Est-ce que juste c'est parce qu'on a été formaté à l'Église? On nous a dit quoi croire et comment le croire en se passant de toute expérience personnelle? Ou parce que nous-mêmes on s'est déplacés et on a voulu vérifier? Vous savez quoi? Moi, je suis du style, j'ai besoin d'avoir des convictions. J'ai besoin. Ça veut dire que tout ce que je crois aujourd'hui, je le crois, mais c'est indéboulonnable. Je vous garantis. Là, maintenant, c'est indéboulonnable. Mais
Au bout de 2-3 ans de vie chrétienne, une fois, j'ai remis en cause que Jésus était Dieu. Parce que je dis, pourquoi je crois que Jésus est Dieu? Parce qu'on me l'a dit ou parce que je le sais? Et j'ai commencé à vouloir sonder les Écritures et j'ai prié, je dis, Seigneur, moi je veux une révélation que tu es Dieu. Si je n'ai pas de révélation, je veux arrêter d'y croire. Est-ce que vous m'avez suivi? Il y en a, ils vont dire, oh, c'est un jeu dangereux ça. Non, ça me permet maintenant d'être un homme de conviction. Amen. Amen. Ça me permet d'avoir des convictions qui sont plantées et le vent peut souffler. Je sais que ma vie, je la bâtis en mettant en parole, en mettant en action, en bâtissant sur les Écritures. Eh bien, la tempête peut souffler, ma maison tiendra le coup. Parce que je bâtis sur des convictions. Donc, je te repose encore les mêmes questions. Ce que tu connais de Dieu, comment le connais-tu? Est-ce que c'est parce que tu as entendu des super messages, tu as entendu des super témoignages, ou parce que toi-même, tu l'as rencontré? Tu ne trouves pas que c'est une question qui est importante? Connaître. Oh! Vous savez, l'Ancien Testament, il est écrit en hébreu, puis le Nouveau, il est écrit en grec. Et c'est intéressant parce qu'en hébreu et en grec, c'est deux connotations complètement différentes. En grec, le verbe grec qui est traduit « connaître » le plus employé, c'est « gnosko ». C'est la connaissance cérébrale. En hébreu, pour connaître, le verbe le plus employé, c'est « yada ». Et « yada », c'est la connaissance expérimentale. Un exemple, Adam connut Ève, et ils eurent beaucoup d'enfants. Et entre nous, c'est pas juste cérébral. Ça a demandé un minimum de rapprochement, un minimum de contact. Est-ce que vous êtes d'accord? Puis un minimum d'expérience. Ça, c'est pas fait comme ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et en fait, encore aujourd'hui, le monde chrétien est divisé en deux. Même ceux qui ne veulent pas la division, on est divisé en deux. Il y a ceux qui ont une connaissance gnosko, ils remplissent bien la boîte à poux, plein d'idéologies. Il y a plein d'idéologies, il y a plein de doctrines, ils sont prêts à se battre pour leur doctrine. Et il y a ceux qui connaissent Dieu. Et il y a une différence entre connaître des choses sur Dieu et connaître Dieu. Là maintenant, avec Internet, vous pouvez surfer sur le web, devenir spécialiste d'un pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous pouvez apprendre la langue, vous pouvez regarder des photos, vous pouvez même regarder des petits films. Tiens, on prend un exemple. Ici, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été en Nouvelle-Zélande, par exemple? Bon, alors, il faut que je prenne un autre exemple. En Papouasie. Bon. Papouasie. Et Nouvelle-Zélande, d'habitude, ça marche. Hein. Papouasie. Bon, et bien, même si vous n'y avez pas été, vous pouvez passer pour vraiment un connaisseur. Vous renseignez sur Internet, vous lisez des documents, vous pouvez amagasiner plein de connaissances sur la Papouasie. N'empêche que vous en saurez jamais plus que quelqu'un qui a posé les pieds et qui a vu ses yeux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? De la même manière, il y a des gens, ils connaissent plein de choses sur Dieu, ils en connaissent tellement que c'est les ennemis de Dieu. Ils n'arrivent plus à toucher Dieu, et Dieu n'arrive plus à les toucher. Leur connaissance met une barrière. Donc, je suis sûr que ça ne vous concerne pas, mais je vous parle pour les autres, comme ça vous pourrez prier pour eux. Mais il y a trop de chrétiens qui ont juste une connaissance gnosko. Ils croient à cause de l'étude, ils croient à cause de la prédication, ils croient parce qu'on l'a toujours cru comme ça, sans jamais vérifier eux-mêmes à la source, sans jamais être touchés par Dieu. Je vais même aller plus loin. Il y a des pasteurs qui n'ont jamais été touchés par Dieu. Je vais même encore aller plus loin. Il y a des pasteurs qui ne sont même pas convertis, qui ne sont même pas nés de nouveau. Ils ont juste pris la succession. Il y en a, ils sont bouchers de père en fils. Il y en a, ils sont pasteurs de père en fils. Est-ce que vous me suivez? Ils peuvent être bouchers en même temps. Mais on peut malheureusement servir Dieu sans être né de nouveau. Il y en a, ils s'imaginent, 3-4 ans d'une école biblique, ça remplace l'expérience avec Dieu. Et c'est un énorme mensonge. Est-ce que vous êtes d'accord au moins avec ça? C'est un énorme mensonge. Donc, la vraie question, ce que tu connais sur Dieu, comment le connais-tu? Tiens, comment sais-tu que Dieu est amour? Ça, c'est une bonne question. Comment sais-tu que Dieu est amour? Juste parce que c'est écrit? Parce que depuis que tu vas à l'école du dimanche, tu as entendu Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Hein, vous la connaissez, la chanson? Est-ce que c'est uniquement à cause de ça? Oui, parce que vous avez réussi à vous faire la vie de trouver. Oui, Dieu m'aime. Tu t'as tellement entendu qu'on te disait que tu as fini par le croire, ou parce que tu as eu une révélation de l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit, selon Romains 5,5, il a versé l'amour de Dieu dans ton cœur. Quelle est la raison pour laquelle tu crois que Dieu est amour et que Dieu t'aime? Parce qu'on te l'a dit ou parce que tu as vraiment vécu que tu es aimé par Dieu? Tu trouvais pas que c'est des bonnes questions, des fois, qu'on doit se poser? Je suis pas en train de dire, si tout ce que tu crois, tu le crois à cause des autres, tu as tout faux, je suis pas en train de dire ça. Ce que je suis en train de dire, c'est que toute connaissance cérébrale a besoin de se convertir en connaissance par révélation et en connaissance par expérience. Amen. Donc ce que tu connais de manière cérébrale, et qui est juste, parce que des fois on connaît des choses cérébralement qui sont fausses, mais ce que tu connais de manière cérébrale et qui est juste, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça demande juste à se convertir en connaissance par révélation, en connaissance expérimentale. Mais par contre, si ça ne se convertit pas, si ça reste bloqué là dans la boîte à boue, tu n'iras pas loin.
Amen.
Tu n'iras pas loin. Quand la tempête va souffler, tu n'auras pas de conviction, tu ne pourras pas jeter l'ancre.
Tu seras chahuté, tu seras ballotté. Si un jour, tu as un courant contraire qui parle encore plus fort que ce que tu avais entendu, tu peux même changer ta façon de croire, parce que ça n'a pas pris racine. Rappelez-vous la parabole du semeur. Il y en a, quand c'est tombé dans le sol pierreux, ça a pris rapidement, ils ont reçu la parole avec joie. Mais après, Jésus dit, mais ils ont desséché vite. Ils ont vite desséché parce qu'ils n'avaient pas de racines en eux-mêmes. Ils étaient restés superficiels. Et je crois qu'on a besoin d'une connaissance de Dieu par révélation, par expérience, en étant touché personnellement par Dieu. Amen. Il va y avoir un temps où je vais vous parler de l'amour de Dieu de manière vraiment concrète. Mais en tout cas, s'il y a bien une chose qu'on a besoin de savoir par révélation et par expérience, c'est le fait que Dieu nous aime. Tant que tu ne le sais pas, tu vas être rempli de crainte, parce qu'il n'y a que l'amour parfait qui bannit la crainte. Et tu auras toujours moyen de croire aux mensonges du diable, tu auras toujours moyen d'être déstabilisé. Par contre, quand tu connais l'amour de Dieu, et je dis quand tu le connais, pas là, pas juste là, quand c'est descendu là, quand le Saint-Esprit verse l'amour de Dieu dans ton cœur, ça te fait exploser. Ça te fait exploser. Amen. Le reste, tu t'en fous. Non, franchement, moi maintenant, c'est bien parce que je suis pasteur, faut que je lise ma Bible. Non, je rigole. Non. Écoutez, c'est important d'être au courant sur les autres sujets. Mais moi, personnellement, dans ma relation personnelle et dans ma vie de tous les jours, la révélation qui a eu le plus d'impact, c'est la révélation que Dieu m'aime. Il n'y en a pas eu une autre qui a eu autant d'impact sur ma vie. Il n'y en a pas eu une autre qui m'a sculpté. Le fait que Dieu m'aime, ça m'a délivré, ça m'a guéri, ça m'a assuré un avenir, ça a guéri ma vie, ça fait que je m'aime aussi. Si Dieu m'aime, autant que je m'aime aussi. Amen. Et si je m'aime, je suis capable d'aimer les autres, parce que c'est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Moi, il y a des gens, je ne veux pas qu'ils m'aiment, parce que s'ils m'aiment comme ils s'aiment eux-mêmes, oula, j'ai pas envie qu'ils m'aiment. Non, on a besoin de goûter l'amour de Dieu, c'est terrible. Donc je te pose juste la question, comment tu crois, comment tu sais que Dieu t'aime? Comment tu sais que Dieu est saint? Comment tu sais que tu es sauvé? Il y en a, ils vont dire, il est en train de remettre en doute notre salut là. Écoute, tu peux le prendre comme ça si tu veux. Moi, ce que je remets en doute, c'est les convictions. Ce n'est pas le salut en lui-même. On a besoin d'être des hommes et des femmes de conviction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On a besoin que ça soit enraciné. Et pas juste parce qu'on nous a dit puis que ça a été persuasif, mais parce que le Saint-Esprit est venu confirmer, il est venu planter une conviction dans nos cœurs. C'est ça qu'on a besoin. Et ça, ça va tenir. Ça va nous sculpter, on va tellement être impacté par la révélation de Dieu qu'on va emporter l'empreinte jusqu'à la fin de notre vie. Amen. Amen. Moi, ce soir, c'est ça que j'avais à partager avec vous. Ce soir, je suis gentil.
Je suis très gentil. Maintenant, demain, à partir de demain, il faudra accrocher sa ceinture. Je dis, je n'ai pas fait 8 km pour parler de Nicolas. Non, je sens que, et c'est de plus en plus clair, le Saint-Esprit attend juste qu'on se rende vulnérable à son action. On a besoin de baisser certains boucliers, on a besoin de se rendre vulnérable.
Amen. C'est de ça qu'on a besoin. Donc ce soir, le thème, c'est juste ça. Vous avez entendu le témoignage. Dieu est capable de faire des miracles avec quelqu'un dont on n'aurait pas parié un bouton de culotte sur sa vie. Donc s'il est capable de faire avec une personne comme ça, il est capable de le faire avec vous. Amen. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième, c'est qu'on n'est pas obligé de connaître Dieu cérébralement. Juste avec sa tête. Toute connaissance cérébrale a besoin de se convertir et d'être transformée en connaissance par révélation. Quand tu crois en quelque chose parce que tu as eu la révélation de Dieu, waouh, ni rien ni personne pourra la déraciner. Ni rien ni personne. Par contre, si c'est juste une histoire d'arguments, le jour où tu as des arguments intelligents qui viennent contrebalancer, ça te met le doute et ça te déstabilise. Comment tu sais qu'il y a la vie éternelle? Comment tu sais que tu as la vie éternelle? Comment tu sais qu'il existe un ciel? Comment tu sais que tu es justifié? Comment tu sais que tu es pardonné? Comment tu sais que tu as autorité sur les démons? Est-ce que tu fais tous les séminaires sur ta mère? Ça peut t'aider à être délivré. Mais tu sais quoi? Ça ne remplacera jamais une recherche et une révélation personnelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si tu fais 10 ans de séminaire sotéria et que tu n'as aucun démon à ton tableau de chasse, tu as un gros problème. Si pendant 10 ans, on est obligé de te chasser les mêmes démons à chaque fois et que pendant ce temps-là, tu ne sers à rien pour le royaume de Dieu, tu as des gros problèmes. Est-ce que vous me suivez dans ce que je veux dire? Donc, je ne suis pas en train de remettre en cause les séminaires de délivrance. Comme tout à l'heure, j'ai parlé pour la guérison. Je ne suis pas en train de remettre en cause les enseignements ou les livres ou les prédications. C'est utile, toutes ces choses-là. Mais il faut bien qu'on se rappelle. C'est, en fait, tous les serviteurs de Dieu, on est comme des panneaux indicateurs. Dieu, c'est pas là. On n'est pas là pour remplacer Dieu, on n'est pas là pour créer une dépendance dans nos vies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait notre propre puits personnel, notre propre source, qu'on ait notre propre relation, qu'on ait quelque chose d'authentique avec lui, qu'on puisse dire, Seigneur, je fais partie des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, pour de vrai, d'une manière réelle et d'une manière spirituelle. Amen. Mais si on priait.
Amen.
Ah, ce serait une belle conclusion de prier. Alors, c'est important qu'on convertisse toujours ce qu'on a entendu en un moment où on permet au Saint-Esprit de faire confirmer sa parole. Amen.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.